France Culture.
À voix nue, production Corinne Renoux Nativelle, cette semaine avec
Delphine de Vigan, écrivaine.
Bonsoir Delphine de Vigan.
Bonsoir.
Hier, nous avons évoqué votre famille, votre enfance et votre adolescence. Ce soir, nous abordons l'écriture de livres dans laquelle vous vous engagez envers et contre tout à la trentaine. Vous commencez l'écriture de votre journal intime à l'adolescence, mais contrairement à la plupart d'entre nous, vous poursuivez ce rendez-vous avec vous-même jusqu'à l'âge adulte. Pourquoi ?
Parce que je pense que ça a été vraiment un moyen de me connaître, de me construire. C'était un rendez-vous avec l'écriture. C'est vrai que j'ai continué ce journal jusqu'à l'âge de 29 ans. En fait, j'ai arrêté après la naissance de ma fille, avant tout par manque de temps. Peut-être aussi parce que j'étais arrivée au bout de cette forme d'écriture. Mais tout ce temps-là, ça m'a vraiment permis. Alors, selon les périodes, on parlait hier soir de l'anorexie, oui. Il y a eu des périodes où j'ai beaucoup écrit et puis des périodes où j'ai moins écrit, bien sûr, où j'étais davantage occupée par la vie. Mais il y avait malgré tout ce rendez-vous avec l'écriture et ce besoin de garder une trace. Je pense que ça a été, sans que je le formule forcément comme ça à cette époque, j'avais déjà ce besoin très fort de laisser quelque chose pour moi-même, hein, pas du tout de laisser une trace pour quiconque, mais vraiment avec l'idée ou l'intuition qu'à un moment donné, j'aurais envie de me retourner sur ces moments-là et d'y trouver des détails, des précisions que j'aurais oubliées. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous disais hier que je n'arrivais pas à jeter ce journal. Aujourd'hui, c'est dans une caisse, une collection d'une trentaine de cahiers. Il m'est arrivé plein de fois de me dire « mais ce serait mieux quand même de s'en débarrasser ». J'y suis revenue à plusieurs reprises. J'y suis revenue pour écrire « Jour sans fin », dont on parlait, pour écrire « Rien ne s'oppose à la nuit ». Mais sinon, je ne le lis pas tous les jours. Mais j'ai le sentiment malgré tout que, par définition, il contient des choses très intimes qu'il serait plutôt souhaitable de soustraire au regard. Mais je ne peux pas me résoudre à perdre cette trace, ces traces de moments que j'ai parfois en partie oubliés.
Delphine de Vigan, vous avez fait Hippocagne et Cagne, mais ensuite, vous ne vous lancez pas dans un cursus littéraire. Pourquoi ?
La première raison, c'est que je me lance dans un cursus hospitalier. Je passe 6 mois à l'hôpital.
Pour l'anorexie ?
Pour l'anorexie. Et à l'issue de ça, à la fois pour diverses raisons, en fait, financières en partie, je me dirige vers des études plus courtes qui vont me permettre de travailler rapidement. Et plus tard, je reviendrai aux études une fois que j'aurai, enfin, en ayant travaillé 5 ans à l'époque, il y avait quand même des possibilités de formation dans la formation continue qui permettaient de reprendre des études en étant financé. Ce que j'ai fait, et c'est comme ça que j'ai fait plus tard, 5 ou 6 ans plus tard, le CELSA.
Alors, quelles études avez-vous fait initialement? Quel métier?
Après cette année marquée par la maladie, donc l'hospitalisation et puis ensuite une convalescence qui d'ailleurs s'est révélée assez longue parce que c'est assez long quand même de revenir de tout ça. Mais j'ai fait un DUT d'information communication. Ça a vraiment été 2 années très joyeuses parce que d'abord j'y ai rencontré des gens très sympas et puis c'était malgré tout un peu la grande époque de la pub, etc. On faisait des campagnes de pub très créatives, on riait beaucoup. J'ai vraiment un très bon souvenir et pour moi ça a été une période de convalescence parce que quand j'ai commencé l'IUT j'étais encore un peu fragile et puis petit à petit ça m'a vraiment permis de me consolider et puis j'avais conclu plus ou moins un pacte avec des gens de ma famille qui m'aidaient financièrement que voilà, dans 2 ans en gros j'étais autonome, je me trouvais autonome. Et en effet à l'époque avec un DUT je ne sais pas si c'est si vrai aujourd'hui, mais en tout cas, on pouvait vraiment trouver du travail en sortant d'un DUT, ce qui a été mon cas. Donc, j'ai commencé à travailler à 21 ans dans la continuité de ce diplôme. Je me suis dirigée vers les études de marché. Donc, j'ai travaillé dans différentes entreprises, en particulier au CCA, qui était le Centre de Communication Avancée, qui était un institut d'études qu'avait créé Bernard Catlat, qui a été une figure assez importante dans les années 70-80, qui avait créé les sociostyles, cette manière de catégoriser les Français par leur style de vie. Les décalés, je m'en rappelle plus les noms, c'est trop loin. Mais donc j'ai travaillé quelques années dans cette entreprise. Ensuite, pour un petit cabinet d'études qui était spécialisé dans l'univers du luxe. Donc là, c'était des études qualitatives, bon, c'est tout à fait passionnante d'ailleurs. Et puis, bah, c'est à ce moment-là que j'ai éprouvé le besoin de reprendre des études. J'étais quand même restée un peu sur ma faim d'une certaine manière, donc j'ai eu envie de recommencer à étudier. Là, j'avais la possibilité de le faire en étant autonome financièrement. Donc j'ai postulé, enfin j'ai passé un concours pour entrer au CELSA. Et là, j'ai fait une maîtrise, je crois, de, je me rappelle plus, communication interne, quelque chose comme ça. Pourtant, j'ai eu à la ressortir dernièrement, parce que je me suis inscrite à un DU cette année. Et donc, il m'a fallu aller à la cave retrouver ce diplôme. Mais je me rappelle plus l'intitulé exact.
Vous nous avez dit que vous avez cessé d'écrire votre journal intime à 29 ans, Delphine de Vigan. Quand revient l'envie d'écrire et qu'est-ce qui vous conduit à écrire un livre ?
Ça reste assez mystérieux. Comment je passe, en effet, du journal intime à l'écriture romanesque, avec quand même cette idée un peu folle qui consiste à envoyer un manuscrit à des éditeurs par la poste. D'autant plus que je n'avais pas le souvenir que j'ambitionnais d'être écrivain. Je n'avais pas de souvenir de ça, mais des amis qui étaient avec moi en Cagne m'ont dit plus tard, mais si tu nous disais que tu écrirais quand tu serais à la retraite. C'est très bizarre, je ne sais pas à quoi ça correspondait. En fait, ce que je peux en dire, c'est que je pense que j'ai attendu d'avoir construit quelque chose qui ressemblait à un socle. C'est-à-dire que entrant dans l'âge adulte, dans cet état de fragilité que je décrivais à l'instant, ça aurait été impensable de me dire je vais écrire. Écrire, je veux dire au sens écrire un roman, l'envoyer, tenter de le publier. Je n'étais pas assez solide pour ça. Et encore moins de me dire je vais vivre de l'écriture, ce qui, enfin, de mon point, n'existait même pas. Mais simplement me dire je vais écrire pour être lu, c'est-à-dire je vais écrire pour montrer en tout cas ce que j'écris, je devais sentir de manière très inconsciente que je n'avais pas les épaules pour ça. Et j'ai attendu d'avoir construit le socle dont j'avais besoin. Et ce socle, bah, ça a été effectivement de travailler en entreprise, d'être indépendante financièrement, ce qui a toujours été une préoccupation assez importante, de rencontrer le père de mes enfants, qui a été le premier grand amour de ma vie, d'avoir un enfant, puis un deuxième. Voilà, là, je pense que quelque chose était construit, était ancré, qui me permettait de prendre ce risque d'écrire.
Et ce premier manuscrit, Delphine de Vigan, qui est refusé par les éditeurs à qui vous l'envoyez, quel est son sujet ?
C'est un secret. non, c'est pas un secret.
C'est un roman humoristique, je crois.
Oui, c'est un roman humoristique. Et je l'ai toujours dans un tiroir. Il était à l'époque, je l'ai envoyé à quelques éditeurs. Et puis j'avais reçu des retours assez de la part de quelques maisons encourageants. Enfin, où je sentais que le manuscrit avait été lu et que c'était pas seulement une lettre type. Où voilà, on mettait en avant telle ou telle qualité, mais en me disant que le roman n'était pas suffisamment abouti. Et en effet, quand il m'est arrivé de le parcourir, il n'était pas tout à fait abouti. Je l'avais écrit assez rapidement. C'était un roman humoristique, oui, tout à fait. Ça peut paraître étrange, mais...
Et alors, comment vous passez d'un roman humoristique à un livre sur l'anorexie, qui sera Jour sans fin, que vous publiez, lui, en 2001?
Ben, en fait, quand j'ai donc envoyé ce manuscrit qui s'appelait « Abracadabra », c'était en gros l'histoire d'une fée quand même, hein, la rencontre entre une fée et un misanthrope, on va dire. Et je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. J'avais eu un retour de Grasset, du directeur littéraire de Grasset de l'époque, qui m'avait écrit une lettre vraiment très très argumentée, etc. Et puis j'avais eu un appel d'une éditrice de chez Albin Michel qui m'avait dit voilà, là aussi, qui avait mis en avant un certain nombre de qualités, m'encourageant vraiment à poursuivre l'écriture. Mais elle m'avait dit je vous conseille de ne pas tenter de retravailler le premier jet de ce texte. C'est très compliqué de retravailler le premier jet d'un premier roman. Je vous conseille de partir sur autre chose. Et là, le soir même, en fait, j'ai commencé « Jour sans fin », qui était sans doute un texte que je portais finalement depuis très très longtemps, parce que j'avais écrit quand j'étais à l'hôpital, parce que le médecin qui s'occupait de moi m'avait demandé s'il pouvait lire mes lettres à ses étudiants. Je lui écrivais à lui assez souvent pour essayer d'expliquer ce que je ressentais, cette transformation, ce retour à la vie, etc. Il avait utilisé ses lettres, et puis souvent il me taquinait. Son truc, c'était, il me disait « Alors, à quand le roman chez Stock ?» Il avait une amie qui travaillait chez Stock, et donc voilà. Mais ça avait dû rester quand même quelque part, parce que c'est ce texte que j'ai commencé avec vraiment ce sentiment qu'il n'y avait plus qu'à l'écrire. Et c'est un texte que j'ai écrit assez rapidement, puisque je travaillais donc en entreprise, donc j'écrivais le soir, je l'ai envoyé par la poste aux maisons d'édition, les trois maisons d'édition qui m'avaient encouragée, et les trois l'ont pris.
Les trois l'ont pris, oui. Et ensuite vous avez choisi...
Ben, en fait, Grasset, Yves Berger, donc, qui était le directeur littéraire à l'époque, avait été le premier à m'appeler, et c'était déjà tellement incroyable d'avoir un appel d'Yves Berger sur son répondeur. J'avais même cru que c'était une blague d'un ami, parce qu'il avait un fort accent du Sud. Vraiment, j'ai découvert le message, j'ai cru que c'était une blague. Et puis, voilà, j'ai eu rendez-vous avec lui, j'étais engagée, j'avais rien signé, mais j'étais engagée avec lui, donc ça s'est fait comme ça.
Pour vous, c'est immédiatement hors de question de vous arrêter à ce premier récit ? Delphine de Vigan ?
Ah oui, c'était clair, mais je me rappelle, parce qu'il y a beaucoup de discussions à ce moment-là, au sein de la maison d'édition, de savoir comment présenter ce texte, qui était à la fois, oui, c'est vrai, un témoignage, mais pour moi, c'était une entreprise littéraire. Et j'ai beaucoup, beaucoup défendu ça, beaucoup bataillé. Je me souviens que quand j'ai présenté le texte aux représentants, j'ai commencé par dire que l'envie d'écrire précédait ce texte et qu'elle lui survivrait. Et c'était vraiment... oui. Ensuite, il y a eu tout un débat parce que la maison d'édition voulait mettre en bandeau « Journal d'une anorexie », j'ai refusé. Voilà, des choses comme ça. Pour moi, et je me rappelle avoir dit à l'époque, en sanglotant d'ailleurs, à Manuel Carcassonne dans son bureau, qui travaillait chez Grasset, « Si vous pensez que ce texte n'a pas de valeur littéraire, ne le publiez pas. S'il s'agit seulement d'aller témoigner à la marche du siècle, c'était l'émission de l'époque, l'émission de société, je n'ai pas besoin d'écrire un livre pour y aller. Parler d'anorexie, je sais le faire d'une certaine manière, mais là j'ai voulu écrire quelque chose et considérer que ça pouvait être un matériau littéraire au même titre que n'importe quel autre.
Ce qui suppose, Delphine de Vigan, un certain aplomb pour ce premier livre.
Oui, c'est vrai, en tout cas une conviction suffisamment forte pour le défendre dans un univers qui n'était pas du tout le mien. Je n'avais jamais mis les pieds dans une maison d'édition. J'étais évidemment très impressionnée et en même temps extrêmement honorée, flattée et folle de joie de publier un premier roman envoyé par la poste. Mais je sentais ça et je sentais aussi... À vrai dire, ça m'avait été dit par un journaliste que j'ai rencontré assez tôt, qui m'avait dit « Ne vous laissez pas enfermer dans le témoignage, refusez les... » Enfin, voilà, il se trouve que c'est ce que j'avais fait avant, mais ça m'a confortée dans l'idée de refuser une certaine manière de présenter le livre.
Comment naissent les idées des deux livres suivants, Delphine de Vigan, « Les jolis garçons » et « Un soir de décembre » ? Leur sujet commun, c'est la désillusion amoureuse ?
Oui. Alors, différemment, Un soir de décembre, en réalité, précède Les jolis garçons. Je l'ai publié après, mais je l'ai écrit avant. Ce texte est né d'une scène à laquelle j'avais assisté au Salon du Livre. J'étais allée écouter Martin Winkler, qui faisait une conférence. Et parmi l'assistance, assise par terre, il y avait une jeune femme qui était là, qui pleurait, qui avait pleuré silencieusement. Les larmes coulaient le long de ses joues tout au long de sa conférence et des échanges qu'il avait eus ensuite avec le public. Ben voilà, c'est cette image qui a créé cette histoire d'un homme qui a rencontré un auteur. Enfin, il ne sait même pas très bien lui-même d'ailleurs s'il est écrivain, mais il a écrit un livre, il a rencontré un succès phénoménal et inattendu avec un premier roman. Et ça suscite l'arrivée de plusieurs lettres qu'il reçoit venues d'une femme qu'il a connue avant, qu'il peine jeune. D'ailleurs, au début, il ne la reconnaît pas tout de suite. Qu'il a vu, elle l'a vu à la télévision et elle lui écrit. Voilà. Et c'est tout comment la vie de cet homme est mise en question, mise en danger par le surgissement de cette, enfin le retour de cette femme et l'arrivée de ses lettres à un moment où il n'arrive pas à écrire. En fait, c'est peut-être d'ailleurs avant tout un texte sur l'écriture, mais il n'arrive pas à écrire et il se sert finalement de l'inconfort, de l'instabilité, de la fragilité dans laquelle le mettent ses lettres pour écrire.
Et donc ces deux livres, le deuxième et le troisième, Les Jolis Garçons et Un Soir de Décembre, sont publiés la même année en 2005.
Oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai changé de maison d'édition. J'ai rencontré Karina Houssine, qui est toujours mon éditrice. Rencontre très, très importante, à la fois d'ailleurs dans mon parcours et dans ma vie. Et donc, au départ, je la rencontre avec Les Jolis Garçons. Et elle me dit des choses très gentilles. Elle aime beaucoup le texte. Le texte est publié. Et moi, j'avais mis Un Soir de Décembre dans un tiroir en pensant que c'était raté. Et puis un jour, elle me dit, mais tu sais, tu m'avais parlé de ce texte peu de temps après la parution de Des Jolis Garçons, qui est un recueil de nouvelles. Tu m'avais parlé de ce texte que tu avais écrit, etc. Je lui dis, non, mais tu sais, je crois que c'est raté, mais montre-moi quand même. Et puis finalement, voilà, elle l'a publié à la rentrée suivante.
L'écriture, à cette époque-là, Delphine de Vigan se loge dans les interstices de votre vie. Quelle vie menez-vous ?
Et ben donc à l'époque je suis cadre relativement dynamique, on va dire, dans une entreprise dans laquelle j'ai passé les 11 dernières années où j'ai travaillé, une entreprise qui est une société d'études spécialisée dans différents domaines, et pour ma part je me suis assez vite spécialisée dans ce qu'on appelle l'observation sociale en entreprise. Donc ce sont des enquêtes qui sont menées auprès du personnel en général de grandes entreprises pour évaluer l'état des troupes d'une certaine manière, leur adhésion ou pas à la stratégie de l'entreprise, leur compréhension des objectifs, leur perception de la formation, de la rémunération, etc. Donc moi, mon rôle était de proposer aux entreprises des dispositifs adaptés à leurs besoins au sein de cette société d'études, dans laquelle je suis entrée en 17 par là, quelque chose comme ça, comme chargée d'études. Et puis finalement, après quelques années, j'ai pris un poste de direction d'études, donc je dirigeais le département. Et voilà, et l'écriture en effet venait en plus de tout ça.
Et alors cette écriture, c'est le soir ?
Oui, c'est le soir, quand mes enfants sont couchés. J'ai publié comme ça Les Jolis Garçons, Un Soir de Décembre et Noé et moi. Et avec le sentiment, alors à la fois de, il y a eu des moments, voilà, il y a eu des gros moments de doute où je me souviens que je me disais, mais tu ferais mieux d'aller au gymnase club plutôt que de rester jusqu'à pas d'heure devant ton ordinateur à fumer des cigarettes. À l'époque, je fumais encore. Pourquoi? Et finalement, c'était quand même suffisamment important pour que je m'y tienne et que je perpétue ce rendez-vous avec le texte. Et peut-être justement cette écriture du journal intime à laquelle j'avais renoncé, qui était malgré tout quelque chose d'assez régulier. Ça m'est arrivé de me dire, finalement, l'écriture que j'avais chassée par la fenêtre, elle est revenue par la porte, ou l'inverse en tout cas. Il y avait ce besoin d'écrire et d'essayer de produire quelque chose avec cette idée que ça pouvait être lu, que ça pouvait intéresser des gens, ce qui est quand même assez fou quand on y pense, et quelque part assez présomptueux. Mais voilà, j'étais portée par ça. Et ça me semblait c'était suffisamment fort pour que je me mette à travailler à 10 heures du soir une fois qu'on avait dîné, que les enfants étaient couchés, etc.
Alors du coup, Delphine de Vigan, c'est quoi? C'est une envie de partage?
Non, je sincèrement, ça même encore aujourd'hui, pour moi, ça reste mystérieux pourquoi j'écris. Quand on me pose la question, il y a une volonté sans doute d'élucidation des mystères qui m'entourent, de l'époque, de l'âme humaine, des relations que nous avons les uns les autres, quelque chose que j'éprouve le besoin de nommer, de dire, d'écrire, de mettre en mots, d'élucider encore une fois. Ça vraiment, oui, je pense que c'est assez fort. Probablement quand même cette idée j'ai envie de le faire de telle sorte que ça puisse être reçu et que ça fasse mouche, enfin, que quelqu'un qui dit ça se dise « mais oui, c'est ça, c'est exactement ça ». Ça, ça fait partie, je pense encore aujourd'hui, des choses qui peuvent m'animer. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça un partage. C'est vraiment un besoin, malgré tout, de nommer, d'expliquer, de comprendre moi-même ce qui m'entoure.
Vous aviez pris un pseudonyme pour Jour sans fin et vous l'abandonnez pour les suivants. Pourquoi, dans les deux cas ?
Non, alors, pour Jour sans fin, c'est parce que, donc, à l'époque, je travaillais dans cette société. C'était une manière, je me disais, de mettre un peu de distance entre ma vie personnelle, enfin ma vie professionnelle, ma vie personnelle et une éventuelle vie d'écrivain, pour protéger mes parents et en particulier mon père. C'est-à-dire que Jour sans fin est un texte autobiographique dans lequel, même si c'est d'une manière assez adoucie à dire vrai, je n'y raconte pas tout. Je raconte des choses qui n'étaient pas forcément agréables, pour lui à lire. Et ça me semblait à l'époque plus simple que le texte paraisse sous un nom qui ne soit pas le sien, puisque je porte le même nom que lui. Et puis finalement, à un moment donné, un peu plus tard, d'abord, ça m'a paru très bizarre qu'on m'appelle Lou Delvig, parce que j'ai pas non plus fait le tour du monde avec ce texte, mais quand je suis allée dans quelques festivals, notamment au festival de Chambéry, etc., on m'appelait Lou. Je trouvais ça très marrant au début. J'avais l'impression que c'était comme quand on est enfant et qu'on dit, on dirait que tu t'appellerais Samantha et moi Jessica. Au bout d'un moment, ça me paraissait quand même étrange parce que voilà. Et puis donc ensuite, je me suis dit, non, je vais, si je continue de publier, je vais le faire sous mon nom.
Delphine de Gigan, comment naît l'idée de Noé Moi que vous publiez en 2007 ?
L'idée, elle est vraiment venue de là aussi d'une image cette fois encore où je travaillais en banlieue à Alfortville et tous les jours j'empruntais le même chemin pour me rendre à mon travail et je passais entre autres boulevard Richard Lenoir où il y avait à l'époque plusieurs associations le siège de plusieurs associations qui aidaient les personnes sans abri et un matin en passant comme ça mon regard a croisé celui de deux jeunes femmes qui est vraiment très jeune et qui manifestement avait dormi dehors, était plus ou moins en train d'organiser ou de remballer leurs affaires. Et à la fois le fait que ce soit des femmes et la jeunesse de ces deux femmes m'a vraiment heurtée. Je suis montée dans le RER et c'était cette image comme ça qui me restait vraiment et qui m'a un peu hantée toute la journée. Et je me souviens que quand je suis rentrée le soir, j'ai commencé un peu des recherches en regardant justement le nombre de femmes dans la rue, etc. Et là, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de femmes, ce qui est encore plus vrai aujourd'hui, mais qui vivaient dans la rue, de plus la féminisation et le rajeunissement de la précarité. Et voilà, je pense que le texte, il est vraiment... Enfin, l'idée d'écrire autour de ça, c'est parti de là. Puis après, s'y sont mêlées des choses probablement beaucoup plus intimes, à la fois d'ailleurs dans le personnage de No, qui est cette jeune femme sans abri, et dans celui de Lou, qui est cette toute jeune fille qui croit pouvoir la sauver.
Et Lou, justement, Delphine de Vigan, elle a le prénom de votre pseudonyme, elle est hypersensible comme vous, elle est HPI, au potentiel intellectuel, c'est votre double de papier ?
C'était, en tout cas, oui, sans doute, il y avait une forme de double. L'histoire de ce texte, elle est un peu étonnante parce qu'en fait, je travaillais encore, j'avais le sentiment vraiment d'arracher l'écriture à la vie quotidienne. J'avais pris un mois sans solde pour terminer le roman. J'avais demandé donc à mon patron, en plus de mon mois de congé qui était consacré à ma famille, de prendre un mois de congé sans solde. Et j'avais terminé une première version du texte. Et je l'ai envoyé donc à Karina aussi, mon éditrice à cette époque, assez soulagée d'avoir terminé. J'avais travaillé plusieurs mois sur le manuscrit, comme ça, donc par petits bouts, parce que je ne pouvais pas non plus écrire jusqu'à 5 heures du matin. Et je la vois peu de temps après et elle me dit « c'est formidable, ça va être formidable, mais j'ai l'impression que tu as fait la moitié du chemin ». Là, c'était extrêmement violent. Je dis, mais comment ça? Mais elle me dit, je ne sais pas te dire, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une porte derrière laquelle, que tu n'as pas enfoncée, derrière laquelle tu as refusé d'aller. Et je me rappelle plus des détails, ce serait artificiel de reconstruire cette conversation, mais ce que je comprends quand même, c'est que c'est ce qui concerne ce personnage de Lou. Et je rentre chez moi à Furax. Au début, je suis repartie d'ailleurs tout à fait furieuse de son bureau en me disant « elle a rien compris ». Et puis, le lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit « elle a raison » et j'ai entièrement réécrit le roman. Et c'est vraiment ce personnage de Lou qui est apparu comme étant finalement le personnage principal, qui n'était pas forcément dans la première version. Voilà, et sans doute parce que c'est un double fictif, hein, il y a plein de choses qui ne me ressemblent pas. Mais oui, sans doute, y avais-je mis pas mal de choses de moi.
À Delphine de Vigan, à un moment, vous êtes confrontée dans votre métier à une situation de harcèlement que vous raconterez dans Les Heures souterraines. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces difficultés? Et comment vous vous lancez ensuite dans l'écriture de ce livre ?
Oui, c'était plutôt une situation de conflit, je dirais, parce que la situation que vit Mathilde, le personnage du roman Des Heures souterraines, ça n'est pas celle que j'ai vécue. Sans aucun doute, une situation conflit, de mise à l'écart dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, a été à l'origine du désir d'écrire. C'est-à-dire que quand j'ai ressenti à quel point j'étais fragilisée, voire littéralement laminée par cette situation, alors que j'avais quand même un certain nombre de choses à côté, et notamment le fait d'écrire et d'avoir la chance d'être publiée, à quel point j'étais atteinte psychiquement, atteinte physiquement, à quel point j'étais remise en question dans ma propre assurance, j'ai eu envie d'écrire. Je me suis dit, mais je vais écrire l'histoire d'une femme qui, quelque part, n'aurait pas de béquilles, n'aurait pas de soutien à l'extérieur et se trouverait dans une situation de harcèlement systématique et vraiment destructeur. Donc l'idée du roman elle est venue vraiment de là. Ensuite, comment j'ai trouvé la force d'écrire ? Eh bien, c'est un livre qui a été assez facile à écrire, bizarrement. J'ai parfois raconté ça, c'est-à-dire que j'ai été licenciée par l'entreprise dans laquelle je travaillais. Je me suis arrêtée de travailler fin décembre. Ça faisait quasiment 20 ans que j'étais salariée, à la fois avec une joie totale à l'idée d'avoir du temps, d'écrire à la lumière du jour. Je me disais, je vais avoir quelques mois devant moi, je vais pouvoir écrire un roman à la lumière du jour, ça va être formidable. En même temps, une espèce de vertige parce que je me souviens très bien que le 2 ou le 3 janvier, je me suis retrouvée à 9h du matin en me disant, bon, eh ben donc voilà, il va falloir trouver une forme de discipline et instaurer un. Enfin, c'est à moi de. Il n'y a plus de patron, il n'y a plus de pointeuse, il n'y a plus de. Voilà, il faut trouver en soi les ressources de s'y mettre et de s'y tenir. J'ai commencé, ça commençait plutôt bien d'ailleurs, et puis le 25 janvier, ma mère a mis fin à ses jours. Le 31, j'ai découvert son corps, et là je me suis accrochée en fait à l'écriture, c'est-à-dire que passer une espèce de secousse sismique sans précédent, l'image que j'ai, c'est je me vois accrochée à mon petit bureau, qui est un très joli bureau qu'un ami m'avait prêté, en me disant voilà, c'est la planche de salut, c'est ça, et d'écrire justement un texte qui finalement n'avait rien à voir avec elle, mais qui sans aucun doute porte la noirceur de ce moment.
Oui, puisque ce premier texte écrit à la lumière du jour s'appelle Les Heures souterraines.
S'appelle Les Heures souterraines et sans doute quand même un des textes les plus sombres que j'ai écrit.
Merci infiniment Delphine de Vigan. Nous vous retrouvons demain pour continuer à parler de votre écriture de romancière. C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphna Abgral, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Martin Troadec. Une série de Corinne Renoux Nativelle disponible sur le site et l'application de Radio France.